Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonsoir à tous. Au troisième soir de vote au Parlement britannique, les députés ont décidé pour un report du Brexit au 30 juin, mais il reste soumis à un quatrième vote en faveur d'un accord de sortie. L'Union européenne rappelle également ce soir que le report devra être motivé et validé à l'unanimité des 27, précisions de notre correspondant à Londres dans un instant. Que signifie ce vote aujourd'hui? Quels sont les scénarios possibles d'accord et de report du Brexit? Et quelles conséquences pour Theresa May? Nous tenterons d'y répondre avec notre invité, l'université Sophie Loussouarne. Dans l'actualité également, un nouveau candidat à la présidentielle aux États-Unis, le démocrate Beto O'Rourke, pressenti pour devenir le nouveau Kennedy. Et puis en France, au 9e jour de mobilisation dans les prisons, syndicats et gouvernement négocient sans satisfaire les personnels pénitentiaires pour l'instant. Ils ont dit non les deux derniers jours, non à l'accord négocié par Theresa May pour sortir de l'Union européenne. Ce soir, la Chambre des communes dit enfin oui. Le Brexit est reporté au 30 juin prochain, si et seulement si l'accord déjà proposé par la Première ministre est accepté lors d'un quatrième vote mardi prochain. Antoine Géniaud.
Oui, et Theresa May l'a pourtant répété sur tous les tons des centaines de fois ces deux dernières années. La date a même été écrite dans un projet de loi. Mais voilà, ce soir, à 15 jours du Brexit, tout s'arrête, les deux pieds sur le frein pour les députés, y compris au sein du Parti conservateur. Et c'est le premier constat ce soir. Ce vote révèle des fissures gigantesques au sein de la majorité avec des députés qui s'opposent à la ligne officielle du gouvernement. Deuxième constat, ce gouvernement est lui-même de plus en plus divisé. 8 ministres au moins ont voté pour repousser la sortie de l'Union européenne, contrairement donc aux consignes données par Theresa May, parmi eux, de manière ahurissante, le ministre actuel du Brexit. Il y aura donc probablement des démissions dans les jours qui viennent, mais quoi qu'il arrive, la balle est maintenant dans le camp de la Commission européenne. Son porte-parole insiste ce soir sur le fait que cette extension de l'article 50 n'est pas automatique. Pour qu'elle ait lieu, il faut l'accord des 27, et il précise, la priorité, ce sont les besoins et le fonctionnement des institutions européennes.
Antoine Géniaud depuis Londres, merci. Pour continuer à analyser ce vote et ses conséquences à venir, notre invitée ce soir est Sophie Loussouarne. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Picardie, spécialiste du Royaume-Uni. Alors on imagine Theresa May soulagée ce soir, la bataille n'est pas encore terminée. Que peut-on dire du prochain vote sur l'accord à la Chambre des communes mardi prochain et l'Union européenne qui doit ensuite donner sa validation?
Alors, le Premier ministre peut en effet être soulagé puisque son amendement a été voté à 412 voix et pour demander une extension de l'article 50. Le Premier ministre Theresa May se rendra donc à Bruxelles pour demander un délai jusqu'à la fin du mois de juin, le 30 juin, et les 27 pays de l'Union européenne devront donner leur accord. Cet amendement devra être validé également par un vote à la Chambre des communes mardi. Le Premier ministre a donc encore le contrôle du gouvernement et du Parlement, même si elle a perdu beaucoup de son autorité et si son projet sur le Brexit a échoué en janvier et le 12 mars 2019.
Alors justement, pour Theresa May, ces trois votes au Parlement, on voit bien qu'ils ont été difficiles, avec une forte opposition, y compris au sein de son propre parti. Comment est-ce qu'elle en ressort? On a l'impression que vous dites qu'elle s'en sort plutôt pas mal.
C'est-à-dire que le Premier ministre Theresa May a ignoré la souveraineté du Parlement et n'a pas tenu compte des votes qui la dérangeaient. On assiste aujourd'hui à un affrontement entre le Parlement et l'exécutif qui provient du heurt entre la démocratie représentative qu'incarne la Chambre des communes et la démocratie directe symbolisée par le référendum du 23 juin 2016. Le Brexit a été le plus grand bouleversement constitutionnel et économique que connaissent le Royaume-Uni depuis 1945. Le projet de Theresa May est une forme de Brexit aveugle. Il laisse sans réponse de nombreuses questions sur l'avenir de la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle la seule solution aujourd'hui est de demander l'extension de l'article 50.
Alors au sein de son propre parti, par contre, on a vu que des députés ont voté contre son avis. Comment ça va se passer?
Alors évidemment, vous pensez bien, les partis partisans d'un Brexit dur, les 75 députés conservateurs, ont voté contre le Premier ministre et les 10 députés du parti unioniste d'Irlande du Nord ont voté contre elle. Mais elle a quand même pour elle, dans son parti, des partisans du maintien qui souhaitent une extension de l'article 50 et certains souhaitent même d'ailleurs l'organisation d'un second référendum, comme on l'a vu avec la présentation de l'amendement de Sarah Wollaston, ancien membre du Parti conservateur, qui a quitté le parti pour rejoindre le groupe indépendant. Mais son amendement n'a pas été adopté.
Mais justement, alors on a longtemps entendu parler de l'hypothèse d'un second référendum sur le Brexit. La Chambre des communes s'est massivement prononcée contre aujourd'hui. Jeremy Corbyn, le patron du Labour, y est favorable ce soir. Est-ce que c'est un scénario qui est impossible à imaginer dans un futur proche ?
Vous savez, nous sommes dans une telle situation d'incertitude que tous les scénarios sont encore possibles, mis à part celui d'un Brexit sans accord qui a été rejeté par le Parlement. Même si 334 députés ont voté contre un second référendum, la situation pourrait évoluer si les députés et le gouvernement ne parviennent pas à un accord définissant la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Tant que Theresa May est là, il n'y aura pas de second référendum ?
Elle ne le souhaite pas, mais peut-être sera-t-elle contrainte d'en organiser un, ou bien peut-être un autre Premier ministre conservateur le fera-t-il, mais ça me semblerait très peu probable. Je ne vois pas quel Premier ministre conservateur souhaiterait l'organisation d'un second référendum, surtout si c'est un partisan d'un Brexit dur. Je crois que les partisans du Brexit dur se sont sentis très forts et ont peut-être joué contre eux en votant comme ils l'ont voté. Et peut-être s'achemine-t-on en tout cas vers une nouvelle forme de Brexit plus doux et peut-être même éventuellement une union douanière avec l'Union européenne. C'est aussi ce que souhaitent le ministre des Finances, Philip Hammond, et le ministre du Travail, Amber Rudd.
Merci Sophie Lousouarn d'avoir répondu à nos questions ce soir. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le Sénat vient contrecarrer les plans de Donald Trump, au moins temporairement. Vote d'une résolution annulant la procédure d'urgence nationale décrétée il y a un mois par le président américain. Celle qui permet de débloquer les fonds nécessaires à la construction de son fameux mur à la frontière mexicaine. Vote d'une résolution annulant la procédure d'urgence nationale. Donc, Donald Trump a rapidement tweeté le mot « veto », signifiant qu'il refuserait de promulguer ce texte. États-Unis toujours, c'est une liste qui ne cesse de s'allonger, celle des adversaires potentiels de Donald Trump à la présidentielle qui aura lieu l'année prochaine. Ils sont désormais 15 côté démocrate, 15 à s'être officiellement portés candidats à l'investiture du parti. Dernier en date, un Texan de 46 ans, charismatique et prometteur, Beto O'Rourke. Aux élections de mi-mandat en novembre dernier, il est passé à un cheveu d'un exploit, faire basculer le très républicain État du Texas. Certains médias américains même parlent de lui comme d'un nouveau Ted Kennedy. À Washington, Gregory Phillips.
Amy and I are happy to share with you that I'm running to serve you as the next president of the United States of America.
C'est avec cette vidéo de 3 minutes et demie, mais aussi un long papier dans le très chic magazine Vanity Fair, que Beto O'Rourke confirme qu'il est candidat pour être le futur président des États-Unis. Le Texan a 46 ans, Robert de son prénom, mais à El Paso, tout le monde l'appelle Beto. Il a été représentant, mais jamais sénateur ni gouverneur. Une expérience politique limitée, mais aux élections de mi-mandat en novembre, il a bien failli renverser le sénateur sortant Ted Cruz. Et le fait qu'un démocrate puisse presque l'emporter sur ses terres républicaines l'avait projeté dans la lumière. O'Rourke, donc, candidat à l'investiture démocrate, est dès aujourd'hui en campagne, dans l'Iowa. Je peux même pas vous dire combien c'est important pour moi d'être là. Je m'en souviendrai toute ma vie, chacun d'entre vous, vos visages, la manière dont vous êtes habillés. Et dans ce petit coffee shop de la ville de Keokuk, une habitante lui lance « Fais en sorte qu'on se souvienne tous aussi de ce jour-là ». Celui qui, dans son adolescence, fut un musicien punk, surjoue un peu le côté Kennedy ou Obama en bras de chemise, mais incontestablement, il est charismatique. Pour l'instant, dans l'Iowa, il n'est crédité que de 5% des voix, mais ce premier caucus est prévu pour janvier 2020. O'Rourke a encore du temps pour faire campagne.
Grégory Philips. Direction l'Espagne, où la stupéfaction domine les esprits autour d'une affaire qui remonte à quelques semaines. En février dernier, 8 personnes sont prises en otage dans l'ambassade de Corée du Nord à Madrid. Pendant 4 heures, elles sont bâillonnées, menottées, interrogées et battues par un commando de 10 assaillants. Alertée, la police arrive sur place. 2 voitures s'échappent alors à toute vitesse. Une enquête a été ouverte par le contre-espionnage, enquête dont les conclusions surprenantes ont filtré dans la presse hier. Une affaire digne des grands romans d'espionnage. À Madrid, les précisions de Marie-Hélène Ballestero.
Sur les 10 assaillants de la prise d'otage, 2 personnes identifiées auraient des liens avec la CIA américaine. Les Espagnols en sont tellement convaincus, après avoir analysé les images des caméras de surveillance et interrogé des témoins, qu'ils ont demandé des explications à la CIA. Toujours d'après El País, les services secrets américains ont répondu par la négative, mais de façon peu convaincante. Et selon les indices, ils auraient probablement agi en coopération avec ceux de la Corée du Sud. Le quotidien El Periódico va plus loin et affirme que ce sont 10 mercenaires asiatiques qui ont pris d'assaut l'ambassade de Corée du Nord à Madrid en février dernier, qu'ils ont utilisé leur vrai passeport pour entrer et sortir de la capitale et qu'ils auraient été engagés pour accomplir cette mission. Un commando militaire qui savait parfaitement ce qu'ils cherchaient selon les enquêteurs. Pendant l'assaut violent, ils ont ligoté, frappé et interrogé les 8 personnes qui étaient dans la légation avant de dérober des documents, des ordinateurs et des téléphones. D'après le journal El País, l'objectif de l'attaque était d'obtenir des informations sur le dernier ambassadeur de Corée du Nord en Espagne. Expulsé du pays en septembre 2017, il est devenu depuis l'une des personnes de confiance de Kim Jong-un et son émissaire pour les États-Unis.
Marie-Hélène Ballestero. En Israël, nouveau tir de roquette depuis la bande de Gaza. Des sirènes ont retenti à Tel Aviv et sa banlieue. Le système de défense antimissile a tenté d'intercepter les 2 roquettes. Ni victimes ni dégâts matériels n'ont pour l'instant été signalés. Ce sont maintenant 2 nappes d'hydrocarbures qui menacent les côtes françaises. Du fioul échappé du Grande America, ce navire italien qui a sombré mardi à 300 km de La Rochelle. La première nappe longue de 10 km pourrait toucher terre d'ici dimanche, selon la préfecture maritime, sans pouvoir préciser où et quand. Pour le moment, 4 bateaux sont actuellement à l'œuvre dans des opérations de pompage compliquées en raison des conditions météorologiques. Par ailleurs, un groupe d'experts des accidents maritimes et de prévention de la pollution a été diligenté par l'armateur italien du navire. Un sous-marin télécommandé sera mis à l'eau pour étudier l'épave qui gît à 4600 mètres de profondeur. Dans les prisons françaises, on en est à 9 jours de mobilisation des personnels, 9 jours de protestation pour éviter que l'attaque à Condé-sur-Sarthe ne se reproduise. Les syndicats pénitentiaires étaient reçus ce matin par Nicole Belloubet. Plusieurs annonces ont été faites par la garde des Sceaux, notamment sur les aspects indemnitaires et statutaires du métier. Mais sur le volet sécuritaire, par exemple, les pistes évoquées sont qualifiées d'effet d'annonce par Effo pénitentiaire. Bref, on est encore loin du compte, Soizigbourg.
La ministre n'est pas au fait des réalités. Voilà ce que dit Force Ouvrière. Les délégués syndicaux avaient plutôt bon espoir, pourtant en débutant la discussion, mais ont vite déchanté quand ils sont rentrés dans le détail. Emmanuel Boudin, secrétaire général de FO Pénitentiaire.
On n'a pas encore ouvert les groupes de travail, mais quand on pose des questions précises, le taser, pas à l'intérieur. Pas de chien d'appui, les bombes à gaz. On veut bien, mais pas pour tout le monde. C'est des choses simples, qui coûtent pas cher et qui seraient faciles à mettre en place. La fouille par palpation des familles, une expérimentation de 3 mois. J'ai bien peur qu'au bout des 3 mois, on enterre tout ça.
Et sur leurs revendications phares, la classe des prisons, là aussi, pour FO, la ministre n'est pas sur la même longueur d'onde.
Nous, on est pour qu'on affecte les détenus en fonction de leur profil de dangerosité. Elle est plutôt dans continuer ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire créer des quartiers dans différents établissements. L'étanchéité en prison, ça n'existe pas. La seule chose qu'on peut rendre étanche est un établissement en sa totalité. C'est ce qu'on lui a expliqué. Il y aura un groupe de travail, mais on sait déjà que la base est posée et la base, elle va pas dans le bon sens.
Parmi les annonces faites par Nicole Belloubet, l'élargissement de l'accès pour les officiers à la catégorie B de la fonction publique, mais aussi une revalorisation de la PSS, la prime de suggestion spéciale. Youssef Badr, le porte-parole de la chancellerie.
Elle avait déjà fait l'objet d'une augmentation jusqu'en 2021 de 0,5% par an. Elle augmente cette prime également encore de 0,5%, non pas jusqu'en 2021, mais jusqu'en 2022.
Et ça, pour Emmanuel Baudin, ça ne passe pas.
Là, enfin, franchement, c'est de la
du foutage de gueule, pas possible. 0,5 points, ça représente 7 euros bruts pour un agent qui commence à travailler dans la pénitentiaire. 7 euros bruts par mois, c'est affligeant.
En attendant la consultation de la base, lundi, Force Ouvrière reste mobilisée et devrait continuer les blocages.
Il sera bien tête de liste aux européennes. L'essayiste Raphaël Glucksmann doit annoncer demain sa candidature à la tête d'une liste de rassemblement de la gauche soutenue par le Parti Socialiste. Résultat des discussions depuis septembre entre le créateur du mouvement Place Publique et le patron du PS, Olivier Faure. Un œil sur la météo de demain. Météo France prévoit encore un temps maussade, venteux et pluvieux, surtout dans l'ouest et l'est du pays. Sur le pourtour méditerranéen, pas de pluie mais des nuages. Côté température, les minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés du nord-est au sud-ouest, 7 à 10 degrés sur le nord-ouest et jusqu'à 12 degrés en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto. Merci.